19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
L'enfant n'ayant pas été retrouvé, tout élément permettant la localisation de l'enfant ou de faire avancer l'enquête doit être communiqué sans délai.
L'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges, sa grand-mère a été bernée par 3 ravisseurs. La mère de la petite fille pourrait également être impliquée. Son profil est inquiétant.
Faut-il organiser un hommage national alors que la France s'apprête à franchir la barre des 100 000 morts du Covid? Emmanuel Macron préfère attendre malgré la pression.
Les concours, eux, n'attendent pas et les candidats sont obligés de s'y présenter, parfois la peur au ventre et parfois même quand ils sont positifs au Covid.
Au sommaire également ce soir, une valorisation à 65 milliards de dollars pour Coinbase, cette société américaine qui surfe sur le succès des crypto-monnaies.
Et puis Didier François viendra nous parler de la course aux armements autour du pôle Nord. La Russie aurait mis au point une arme terrifiante.
La météo avec Anissa Haddadi, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Les gelées matinales seront toujours présentes demain matin.
Oui, avec moins 5 à 8 degrés demain. C'est en Auvergne et dans le centre de la France que les températures seront les plus froides encore demain matin. Dans l'après-midi, les températures sont stationnaires, ça ne grimpe pas et reste toujours en dessous des normales de saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et dans les Vosges, près de 24 heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement, toujours aucune nouvelle de la petite Mia, 8 ans.
Arthur Elmbaché, on ne sait pas où se trouve l'enfant, mais on en sait plus ce soir sur le déroulé de son enlèvement par 3 hommes.
Un enlèvement sans violence, soigneusement préparé. Voilà ce qui s'est passé ici hier matin, détaillé tout à l'heure par Nicolas Heitz, le procureur d'Épinal. Les 3 hommes qui ont kidnappé la petite Mia ont mis en œuvre un scénario bien ficelé.
Ils se présentaient comme des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, munis de papiers à l'en-tête du ministère de la Justice. Ils mettaient en confiance cette dame, en lui donnant d'ailleurs le nom d'éducateur qui existe réellement, et expliquaient devoir conduire l'enfant à un rendez-vous dans leurs locaux à midi pour qu'elle y rencontre sa mère. Prise d'une mauvaise intuition, pour reprendre ces termes, la grand-mère vérifia ensuite auprès du service qui lui indiquait qu'aucun éducateur ne devait se présenter au domicile ce jour-là.
La mère de la fillette, une jeune femme de 28 ans, est elle aussi activement recherchée. Le contexte familial est lourd. Des violences, un refus de scolarisation de la petite, une forme de marginalisation, des projets de tout plaquer, partir en camping-car seule avec sa fille pour passer, comme elle l'a dit récemment aux services sociaux, en dessous des radars de la société. C'est tout cela qui avait abouti en janvier dernier au placement de la petite Mia chez sa grand-mère. Les Poulières, Arthur Elmbaché, Europe 1.
La déception des proches de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive défenestrée en 2017 à Paris par l'un de ses voisins. La Cour de cassation estime en effet aujourd'hui que son meurtrier est irresponsable pénalement. Sur la base de 3 expertises, il ne sera donc pas jugé.
La France devrait franchir dans les prochaines heures la barre des 100 000 morts du Covid. Malgré des signes encourageants, nous n'avons toujours pas passé la 3e vague, a prévenu aujourd'hui le porte-parole du gouvernement.
Et alors que certaines voix réclament un hommage national aux victimes, cette question manifestement embarrasse le gouvernement, Louis Dragnel.
Oui, et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en a parlé à la mi-journée. On l'écoute.
Évidemment qu'il y aura un temps d'hommage, de deuil pour les victimes de la Covid. Le président a déjà eu l'occasion d'en parler dans les conseils des ministres que nous avons tenus. Ce moment viendra, nous sommes aujourd'hui engagés et toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie avec, encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination. Mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la nation.
Le message est clair, il y aura bien un hommage pour les morts du Covid, mais ce n'est pas pour maintenant, pour 2 raisons. Tout d'abord, Emmanuel Macron n'a aucune envie de trop s'attarder sur ce chiffre des 100 000 morts du coronavirus. Un bilan humain qui sonne comme un échec. D'ailleurs, Anne Hidalgo, maire de Paris et possible candidate à la présidentielle, vient de décider d'instaurer une journée d'hommage à tous les Parisiens morts du Covid. Hors de question donc pour le président de suivre l'initiative d'une potentielle rivale et surtout de donner des angles d'attaque à ses détracteurs. Ensuite, la 2e raison, la bataille contre la pandémie n'est pas terminée et un ministre me l'a dit, il serait indécent qu'on organise une cérémonie alors que des milliers de Français vont encore mourir. Donc, pas de discours ni de vidéo du président. À l'Élysée, on préfère se concentrer sur l'espoir et la sortie de la crise. D'ailleurs, demain matin, Emmanuel Macron se rendra à Notre-Dame de Paris 2 ans après l'incendie pour louer un symbole de l'esprit de résilience des Français et il recevra en fin d'après-midi ses principaux ministres pour pour étudier les protocoles de réouverture des lieux accueillant du public.
Merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Alors du côté des vaccins maintenant, ce nouveau coup dur avec l'annonce aux États-Unis de la suspension de Johnson & Johnson après de rares cas de caillots sanguins sévères.
Son déploiement dans l'Union européenne est retardé dans l'attente d'une décision de l'Agence européenne du médicament, sans doute la semaine prochaine. Vous savez que la France comptait beaucoup sur ce vaccin pour accélérer sa campagne. Elle a d'ailleurs déjà reçu les premières doses. Ce vaccin sera réservé, en tout cas comme l'AstraZeneca, aux plus de 55 ans.
Oui, justement, à propos de l'AstraZeneca, le Danemark renonce définitivement à l'utiliser. Il est le premier pays d'Europe à prendre une telle décision.
Et ce, malgré les avis du régulateur européen et de l'OMS qui sont favorables à son utilisation.
En France, malgré la situation sanitaire, les concours, notamment ceux des BTS ou des classes préparatoires aux grandes écoles, sont maintenus en présentiel.
Des dizaines d'élèves regroupés alors qu'ils révisent depuis des mois tout seuls chez eux, l'image est déroutante. Et pourtant, ces élèves n'ont pas le choix, Virginie Riva.
Le règlement est clair, même positif au Covid, les élèves de BTS qui ne se présentent pas à leur épreuve ont un zéro, non éliminatoire mais quasiment irrattrapable. Ridouane est en BTS à La Rochelle, il demande avec son collectif le passage en contrôle continu.
On est en confinement là en ce moment, mais on va nous dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller aux examens, vous allez être 1000 dans des lycées, dans des hangars.
Mais vous, si vous êtes positif, est-ce que vous irez quand même à votre examen?
Personnellement, j'y vais. Je suis obligée, j'ai passé 2 années à travailler, à bosser mon BTS.
Les étudiants d'Hugo Billard, professeurs en classe prépa, eux sont moins inquiets. Mais même s'ils sont malades, ils se présenteront également à leur concours d'école de commerce. Ils en ont même parlé ensemble.
Les étudiants aujourd'hui ne savent pas s'ils pourront repasser le concours si jamais ils sont malades là, au mois d'avril, ou s'ils seront condamnés à le repasser un an après. C'est sans doute une des raisons qui fait qu'ils se présentent quand même s'ils sont malades.
À l'entrée des salles, pas de prise de température ni de test PCR. Dans certains centres d'examen, une salle Covid a été prévue pour ceux qui se sentiraient mal ou auraient des symptômes durant les épreuves.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Emmanuel Macron était cet après-midi à Reims en visite au CHU pour parler de la santé mentale des plus jeunes particulièrement affectés par le Covid. Il annonce la mise en place d'un forfait psy pour les enfants déprimés avec 10 séances prépayées chez des psychologues en ville pour tous les enfants de 3 à 17 ans activables tout au long de cette crise auprès de psychologues identifiés sur une plateforme dédiée. Une partie de la dette pourrait être annulée pour certaines entreprises fortement touchées par la crise sanitaire. Au cas par cas, c'est une annonce ce matin du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Europe 1, Julien Bugier.
19h07, restez avec nous dans quelques secondes. On vous parle de cette entrée en bourse absolument fracassante qui confirme l'euphorie autour du fameux Bitcoin.
Et puis les Russes ont-ils vraiment mis au point une torpille qui provoque des tsunamis atomiques?
A tout de suite. La suite du journal, on vous parle de cet événement, l'événement le plus attendu en bourse depuis l'entrée de Facebook, celle de Coinbase, la principale plateforme de transaction de crypto-monnaies aux États-Unis.
Oui, vous savez qu'on vous parle régulièrement des bitcoins sur Europe 1, cette monnaie virtuelle dont le cours s'envole. Aurélien Fleureau, c'est l'illustration parfaite de l'engouement autour de ces crypto-monnaies.
Oui, et cette introduction en bourse, c'est le symbole que les crypto-monnaies s'installent. La plateforme a clairement profité de l'ascension fulgurante du Bitcoin, dont le cours est passé en un an de 6 500 à plus de 62 000 $. C'est la plateforme qui a démocratisé l'accès à ces crypto-monnaies, mais c'est aussi celle qui applique les frais de transaction les plus élevés du marché, avec un fonctionnement très simple et donc un succès spectaculaire, comme l'explique Grégory Raymond, journaliste spécialiste des crypto-monnaies.
Ça fonctionne un peu comme une banque en ligne classique, on peut acheter et vendre assez rapidement. Et Coinbase, ben aujourd'hui, c'est aussi important qu'une banque traditionnelle. Et d'ailleurs, il y a un chiffre très intéressant. L'action devrait valoir à peu près 340 $ au moment où on va pouvoir en acheter. Ça va valoriser l'entreprise autour de 100 milliards $. Et c'est quasiment ce que pèse Goldman Sachs, une institution très respectée aux États-Unis et qui a plus de 150 ans. C'est assez fou.
Coinbase, ce sont 56 millions de clients dans le monde, alors ça peut faire rêver quelques banques, et la plateforme est donc devenue quasi incontournable avec la moitié des utilisateurs de crypto-monnaies qui y sont inscrits.
Précision signée Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
L'actualité ce soir, c'est également la disparition du roi des escrocs.
Bernard Madoff est mort en prison à 82 ans. Il était effectivement l'un des escrocs les plus célèbres du 21e siècle, arrêté en plein cœur de la crise financière mondiale en 2008 pour avoir réalisé une gigantesque escroquerie escroquerie de type pyramide de Ponzi. Vous savez, il piochait dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou pour rembourser des investisseurs plus anciens à travers une fausse banque d'affaires.
Les Russes ont-ils vraiment mis au point une torpille nucléaire capable de provoquer des mini-tsunamis radioactifs? C'est la chaîne CNN qui l'affirme en citant plusieurs spécialistes militaires américains.
Et on en parle bien sûr avec notre spécialiste des affaires internationales, comme tous les soirs. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
C'est terrifiant hein, cette histoire. On parle là d'un nouveau type d'armement incroyable, très effrayant.
Oui, alors c'est sûr que présenté comme l'a fait CNN, hein, le scénario est tout à fait apocalyptique puisque leur hypothèse la plus pessimiste, ce serait qu'on aurait une torpille portant une ogive nucléaire de plusieurs mégatonnes capable de submerger le littoral américain en provoquant une série de vagues radioactives qui rendraient les villes côtières des États-Unis inhabitables pendant des décennies. Alors à ce stade, attention quand même, on n'a pas de certitude sur les capacités réelles de cette arme qui reste à l'état de projet en Russie sous le nom de code Poséidon 2M39. Et selon la presse russe spécialisée, les études auraient été lancées en 2015 et elles pourraient entrer en phase de test cette année avec la construction d'un prototype démonstrateur qui prendrait d'ailleurs plutôt la forme d'un drone sous-marin de reconnaissance côtière dans un premier temps avec effectivement à terme la possibilité d'emporter une charge atomique. Donc pas de danger imminent, d'autant que ce nouvel engin viendra compléter une panoplie nucléaire déjà bien fournie et dont les effets seraient absolument dévastateurs si par malheur la dissuasion venait à échouer, sachant que le principe de l'arsenal atomique, c'est justement qu'il soit suffisamment dissuasif, donc qu'il fasse suffisamment peur pour ne pas être utilisé. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la relance de la course aux armements conventionnels, la Russie ayant entrepris de déployer des nouveaux systèmes très performants, comme ce robot tueur de chars qui s'appelle Ouran 9 et qui a été présenté la semaine dernière en exercice opérationnel. Il y a aussi l'avion de chasse furtif autonome ultra rapide, le Sukhoi 57, doté de missiles hypersoniques, ou bien des radars comme le Résonance qui permettent de voir au-delà de l'horizon. C'est incroyable et ils ont été déployés tout le long du cercle arctique.
Alors, la militarisation de l'Arctique est d'ailleurs le grand sujet d'inquiétude des militaires américains.
Absolument, au point que le Pentagone a décidé de sortir du bois en début de semaine et de faire part de ses craintes, hein, puisque des images satellites très récentes montrent un niveau élevé de déploiement de l'armée russe jusque sur la banquise. Le mois dernier, il y a une image absolument incroyable qui a été mise en place par l'armée russe. 3 sous-marins nucléaires qui font surface dans la banquise au pôle Nord. Eh bien, c'est une décision stratégique qui a été prise par Vladimir Poutine en 2016 qui consiste à s'assurer du contrôle total sur cette nouvelle voie maritime qui est en train de se dégeler à la faveur du réchauffement climatique et qui va finir par relier l'Asie à l'Europe en longeant la mer de Barents et la péninsule de Kola. C'est un enjeu absolument majeur tant sur le plan économique que militaire pour lequel la Russie naturellement a pris un très sérieux coup d'avance.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Lui, on espère qu'il sera moins terrifiant. Hein. L'adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, Borussia Dortmund ou Manchester City, les deux clubs s'affrontent ce soir. Encore quelques heures de patience. Et puis l'autre match de la soirée, c'est Liverpool contre le Real Madrid.
On a fini. Merci Isabelle. C'était le journal d'Isabelle Millet. La météo avec Anissa, une journée plus nuageuse sur la moitié est. Voilà ce qui nous attend demain.
Oui, avec de l'Alsace jusqu'à la Provence, une couverture nuageuse un peu plus importante que ces derniers jours et un peu plus importante que sur le reste du pays. Avec d'ailleurs sur les reliefs du Jura, des Vosges et des Alpes demain après-midi, le retour de la neige à partir de 700 mètres d'altitude. En Provence aussi, hein, le ciel sera couvert avec quelques petites averses. En Corse, le temps est agité. Et puis au nord, sur les Hauts-de-France en particulier, là nous aurons des giboulées demain après-midi. La bise souffle toujours sur la moitié nord. À l'ouest, rien à signaler. De la Bretagne jusqu'au Languedoc, le soleil brille généreusement. Moins 5 degrés à Montluçon demain matin, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à 3, moins 1 à Metz, un petit degré pour Paris, 4 à Bordeaux et 8 à Nice. Vous l'avez constaté, il fera encore froid. Dans l'après-midi, c'est stationnaire, ça ne bouge pas. Exactement comme aujourd'hui, avec 8 à 14 degrés sur la moitié nord et 13 à 18 dans le sud.
Et à Bastia ?
Et à Bastia, il fera 17 degrés.
Bien.
De tête. Hein.
Merci Anissa. Merci Anissa. On vous retrouve demain, évidemment.
À demain.
À partir de 18h.